Radio Okapi. Parité et famille. Famille de ce jour s'intéresse une fois de plus à la vulgarisation du nouveau code de la famille qui a été revu depuis 2016. C'est depuis le 15 juillet 2016 que la RDC est dotée de ce nouveau code de la famille. Contrairement à l'ancien code promulgué en août 1987, ce nouveau code de la famille complété et modifié est un texte harmonisé aux différents instruments juridiques internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo et autres lois de la République. Quelles sont les innovations, les avantages, où on en est avec sa vulgarisation? C'est de ça que nous allons parler dans ce nouveau numéro de Parité et Famille. Bienvenue donc à Parité et Famille, votre magazine qui touche aux questions liées au genre et aussi à la famille. Huit grandes innovations ont été adoptées par le Parlement congolais dans ce nouveau code de la famille en vue d'harmoniser des dispositions discriminatoires contenues dans l'ancien code par rapport aux instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-régionaux ratifiés par la République démocratique du Congo. Thérèse Kankou, quelles sont ces innovations?
Ces innovations sont la suppression de l'autorisation maritale, l'obligation faite aux époux de s'accorder pour tous les actes juridiques dans lesquels ils s'obligent individuellement ou collectivement, la liberté de la partie lésée de saisir les tribunaux pour les départager, l'attribution du nom de l'enfant en commun accord des époux, la liberté de deux conjoints de choisir les lieux de résidence du ménage dans l'intérêt de tous, la considération du caractère injurieux de deux époux en cas d'adultère, l'émancipation judiciaire du mineur en cas des actes précis et sa révocation, si nécessaire, auprès de l'officier de l'état civil, et la liberté de chaque conjoint sans préjudice de l'application de la théorie du mandat domestique sous les concours de ce dernier.
Radio Okapi, parité et famille. Les gens sont-ils au courant de ce nouveau code de la famille? Je vous propose donc de suivre ces femmes interrogées à Kindu dans le Maniema par Mathieu Ilunga.
J'en avais entendu parler à un certain moment, mais vraiment une bonne connaissance, je n'en ai pas. Mais des vraies explications de ces articles-là révisés, je n'en ai jamais eu. J'entendais parler seulement la femme peut maintenant travailler sans autorisation maritale et donner le nom des enfants, ça peut être de commun accord, mais c'est pas bien expliqué. Donc les articles là, il faut une bonne explication parce que la femme doit être en mesure de comprendre son rôle qu'elle doit jouer dans la famille. Ce que je proposerais, c'est qu'il y ait beaucoup plus de vulgarisation, plus de sensibilisation de ce code de la famille concernant les articles révisés. Par exemple, que c'est pas la division famille, genre et enfant organise des séances pour, même à la radio, comme vous êtes en train de me questionner maintenant, il faut passer par là aussi pour qu'ils puissent organiser des émissions, des séances pour informer davantage la population qui en a besoin tellement. On analyse à beaucoup mon piababa, même si du coup
vous me posez la question sur ce code. Moi je ne sais pas lire, comment je vais connaître ce code? Maintenant, qui selon vous pourrait me dire ces choses? Je ne suis qu'une employée ici. Je me réveille le matin, je vais au marché, je vends ma nourriture, ensuite je rentre à la maison. Comment je vais connaître ces choses? Il serait mieux qu'on sensibilise les gens, par exemple, à travers des haut-parleurs au marché, qu'on nous parle pour que nous puissions aussi comprendre ce code.
Radio Okapi. Nous recevons Madame Pelagie Makedika,
qui est la présidente de l'ONG Cause Rurale. Bonjour Madame Pélagie.
Oui, bonjour Maman Nicole.
Plusieurs personnes semblent ignorer les innovations et même l'existence d'un code de la famille en République démocratique du Congo. Alors qu'il y a beaucoup d'ONG de droits de l'homme qui sont là pour la promotion de droits des enfants, de droits de la femme, de droits de l'homme en général, qui sont là, mais pourquoi ce code de la famille ne semble pas être vulgarisé?
Ah bon, merci beaucoup. Le code de la famille, non, le nouveau en fait.
Oui, le nouveau.
Qui vient modifier, compléter l'ancien code de 1987. Celui-là, il n'est pas vulgarisé parce que même l'ancien code aussi n'était pas très connu de la population et même des magistrats qui sont censés appliquer ou dire le droit. Alors, le nouveau code, et là c'est vrai, il a apporté des innovations parce que l'ancien code avait des lacunes ou des faiblesses en ce qui concernait le droit de la femme et le droit de l'enfant. Et surtout avec la situation de l'autorisation maritale qui aliénait presque la femme, la question de l'émancipation des mineurs par l'effet du mariage, et le nouveau code est venu supprimer l'autorisation maritale et même en mettant surtout la tutelle de l'enfant sous le droit vraiment proprement de l'enfant. Alors, le code n'est pas vulgarisé. Je situe le problème ou la problématique à trois niveaux. D'abord, au niveau du gouvernement. C'est le gouvernement qui promulgue la loi via le chef de l'État. Une fois promulguée, la loi doit être vulgarisée, connue auprès de la population. Mais qu'est-ce que notre gouvernement a fourni comme effort pour que cette loi-là soit connue? C'est vrai, on nous dit que la loi, nul n'est censé ignorer la loi une fois vulgarisée, et on nous l'oppose. Mais qu'est-ce que le gouvernement a pris comme mécanisme, comme mesure pour que cette loi-là soit connue dans la face du chef de la population? Il y a un ministère de tutelle, le ministère du genre, famille et enfants. Est-ce qu'ils ont de moyens pour le faire? J'ai vu quelques activités de sensibilisation ou de vulgarisation dans quelques provinces, dans le chef lui-même. Mais à l'intérieur du pays, le code n'est pas connu et je ne pense même pas qu'il sera connu. Et c'est presque, comme on dit, la même chose que l'ancien code qui est en train d'être ou qui a été modifié ou complété.
Bien sûr, le gouvernement est là. Le gouvernement aussi devait faire un effort pour que ce code soit vulgarisé. Mais sur terrain, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup des ONG, des organisations non gouvernementales qui se prétendent être là pour la promotion de droits de l'homme, de droits de la femme. Mais alors, pourquoi est-ce que eux ne peuvent-ils pas appuyer le gouvernement?
Ok, la question des ONG, c'est vrai, il y a des ONG des droits de l'homme, mais toutes les ONG des droits de l'homme ne font pas les droits de la femme. Mais il y a des ONG qui sont des ONG spécifiques qui font le droit de la femme ou la promotion du genre, la promotion et la protection des droits de la femme. Il y a aussi des plateformes au niveau national, au niveau provincial.
Madame Pélagie, je ne vous coupe pas, mais il faut préciser que le code de la famille ce n'est pas seulement pour la femme, hein, c'est pour l'homme, la femme,
voilà,
les enfants.
Voilà, et la famille. C'est un code de la famille,
oui.
Donc il prend l'homme, la femme et les enfants,
oui,
comme cellule de base de la nation.
Oui.
Alors, les ONG, je puis le dire, nos ONG, c'est vrai, elles existent, mais elles sont plus dépendantes des financements extérieurs. Et qui dit financement extérieur dit ligne budgétaire. Parce que quand un partenaire finance un projet, il vous dit qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent que vous avez reçu de ce partenaire-là. Mais si le projet reçu ne contient pas des lignes pour vulgariser le code de la famille, donc l'ONG ne doit pas le faire. Je crois que dans le cadre de ce nouveau code, il y a CAFCO qui a reçu les fonds de l'UNICEF. On a vu CAFCO sillonner dans quelques écoles ici à Kinshasa et peut-être en province, je ne sais pas. Ils ont vulgarisé. Je crois que c'est l'unique jusque-là. Mais les partenaires, est-ce que c'est d'abord une question des partenaires, le code de la famille? Ça, c'est un instrument qui a une portée juridique, sociale et politique. C'est plus au niveau du pays qu'on devrait mettre l'accent pour que le code soit connu. Parce que le code régit les familles congolaises, qui sont les cellules de base de la nation. Si on veut des familles efficaces, il faudra que le code soit approprié au niveau d'abord de nos familles. Et notre gouvernement, donc je reviens sur ça, a une lourde responsabilité via le ministère du genre et d'autres ministères qui travaillent sur la question de la femme.
Radio Okapi.
À Kananga.
Okapi.
Sur 93 FM.
Comment les gens sur terrain sensibilisent les populations pour vulgariser ce nouveau code de la famille?
À Kananga, dans le Kasaï central, Madame Nathalie Kambala, secrétaire exécutive de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement du Kasaï, nous donne les stratégies utilisées par son ONG pour vulgariser le code de la famille révisé.
Nous sommes au courant que depuis 2016, le code de la famille a été révisé, surtout les deux articles qui nous intéressent, plus sur l'autorisation maritale qui a été supprimée pour la femme qui devait demander l'autorisation à son mari pour aller travailler. Et le deuxième article, c'était sur la pension alimentaire reconnue seulement par l'homme. Aujourd'hui, c'est supprimé. On a donné cette responsabilité et à l'homme et à la femme qu'aujourd'hui, tous deux sont à mesure de prendre la charge de ses enfants dans une famille.
Voilà, vous relevez ces deux articles. Est-ce que ce code est suffisamment vulgarisé ici à Kananga, au Kasaï central?
Pas du tout, puisque nous on se disait, c'est vrai, le code est venu, mais les premières personnes qui devaient mettre à notre disposition ce code, ce sont les juristes. Mais nous avons constaté que pour le moment, nous sommes en train de nous débrouiller, quand bien que mal à notre niveau avec ce code, surtout que ça nous intéresse que nous sommes de femmes, on est en train de se débrouiller pour vulgariser à un groupe restreint, mais on n'a pas encore fait des grandes vulgarisations auprès de la population pour qu'elle comprenne que aujourd'hui le code est révisé.
Est-ce que la faute incombe aux juristes seulement comme vous l'avez dit?
Non. Peut-être c'est eux qui pouvaient mettre à notre disposition avec des explications claires, mais à notre niveau aussi, nous sommes des structures de défense des droits de femmes. Nous devons comprendre le méandre de ce que nous voulons que la femme soit demain. C'est comme ça que et la société civile et même les autorités politico-administratives, nous voyons à Kinshasa, le ministère national des genres avec des grandes structures internationales faire des vulgarisations des codes de la famille. On le fait déjà dans d'autres provinces. Mais jusque-là, la ministre des gens au niveau national n'est pas encore venue ici avec le code. Mais nous nous débrouillons avec nos petits moyens limités pour vulgariser ce code avec un petit groupe aussi restreint. Mais on est en train de prendre des stratégies pour le faire auprès de tout le monde.
Votre organisation, comment fait-elle pour vulgariser ce code de famille?
Nous avons nos cibles à nous. Nos premières cibles, ce sont les hommes. Les hommes d'abord, c'est eux qui avaient ce pouvoir-là d'autoriser les femmes à aller travailler. C'est eux encore qui doivent comprendre que voilà, à ce jour, le code a donné le pouvoir à la femme d'aller aussi travailler, même sans son autorisation. Deuxièmement, nous avons aussi la cible, ce sont des femmes elles-mêmes. Puisqu'ici, on a compris que voilà, on est à l'intérieur, on est dans une province pour faire la paix avec les hommes qui ne comprennent pas jusque-là que la femme aussi a le devoir, la femme aussi a le droit d'aller travailler. Nous voulons aussi leur dire que voilà, elles doivent aussi sauter sur l'opportunité pour aussi être épanouies dans la société, pour qu'elles soient aussi importante dans la société pour qu'elle participe aussi à la gestion de la chose publique. Troisièmement, ce sont des universités. Puisqu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'étudiantes à l'université, mais elles terminent à étudier, elles mettent leur diplôme en dessous de lit pour ne pas travailler. Alors là, ça ne sert à rien. Soit vous allez étudier pour terminer, chercher le boulot, soit vous refusez carrément d'aller avec les études au niveau supérieur. Et les parents aussi, qui envoient les enfants à l'école, ils doivent comprendre que et la fille et le garçon, tous ils ont vraiment le même capacité intellectuelle, le même niveau d'études, le même opportunité d'aller aussi dans le monde du travail pour faire développer une province, un pays.
Vous procédez à une sensibilisation porte à porte où vous utilisez les codes pour amener tout le monde à comprendre le contenu?
Oui, on était dans un atelier où on avait suivi par rapport à la révision du code de la famille à Kinshasa. On avait posé le problème si on pouvait interpréter ce code-là dans nos langues maternelles. Mais on a compris aussi, puisqu'il y avait un peu un débat houleux, pour dire que la plupart, le code ici est fait pour les gens qui ont étudié. Si quelqu'un n'a pas étudié, donc il n'a pas droit au chapitre. Donc même si on n'écrit, on fait pas ça, on ne traduit pas dans les langues locales, même si on traduit, mais l'essentiel c'est aller vulgariser. Alors nos stratégies à nous, je disais, on a déjà ciblé les universités, c'est descendre sur terrain, on va dans des églises pour dire, parfois aussi les églises mettent des barrières aux femmes pour dire que la Bible a dit la femme, sa place c'est à la maison, son rôle est réduit aux tâches ménagères, elle est là pour se soumettre à l'homme et faire être machine à production, et l'homme c'est lui qui est le chef de famille. Si déjà les églises comprennent que la femme aussi a droit au chapitre à aller travailler, c'est déjà bon. Et nous sommes aussi en train d'aller dans des écoles l'école et auprès même des parents. Porte à porte, c'est une idée peut-être que vous amenez, qu'on peut aussi le faire et voir aussi des émissions comme ça, puisqu'on ne saura pas descendre au fin fond de notre province ici, mais peut-être avec des émissions télé, radio, où on peut passer le message pour réveiller la conscience. Mais ce qui est vrai, en termes peut-être de pourcentage, peut-être c'est 10% de vulgarisation de codes révisés dans notre province ici, à moins que je sois contredit par d'autres structures.
Radio Okapi, parité et famille.
Joseph Godekaimbe, le président du conseil d'administration de la LISADEL, la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves. Il nous parle des mécanismes mis en place par la LISADEL pour sensibiliser les enfants et les élèves sur le nouveau code de la famille. Il nous fait également part des difficultés rencontrées pour vulgariser ce code dans les écoles.
Ce n'est pas la première fois que le code a été promulgué. Il y a eu le premier code qui a été promulgué en 1987. Ce code n'a jamais été connu, qu'il soit par les enfants, qu'il soit par la population. De même aussi, ce code vient d'être publié, promulgué. Nous espérons que cette fois-ci, tout sera mis en place pour qu'il soit vulgarisé, pour que les enfants connaissent un instrument aussi important qui protège et qui protège non seulement les enfants, mais aussi la famille.
Monsieur Rodé, la LISADEL, justement, c'est le travail que doit faire la LISADEL.
Oui, c'est notre travail parce que nous avons vulgarisé la loi sur la protection de l'enfant. Si cette loi sur la protection de l'enfant aujourd'hui est connue par beaucoup de gens, c'est aussi le fruit de la LISADEL. Comme vous le savez, la LISADEL a fait le plaidoyer pour que cette loi-là existe et nous sommes la première institution qui a diffusé, qui a reproduit plus de 2000 exemplaires que nous avons commencé à vulgariser. Et aussi, nous sommes une référence par rapport à ça. Et la loi sur le code de la famille fera également l'objet de la vulgarisation de la part de la LISADEL. Dès que nous avons les moyens, nous le ferons.
Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour justement atteindre un plus grand nombre d'enfants et pour que ce code de la famille soit vulgarisé au niveau des enfants?
Nous sommes avec l'IPPF qui porte le projet et nous sommes les partenaires de Corded et de ABEF. Et dans ce projet, nous devons pouvoir mettre en place le mécanisme de protection des enfants dans les mines. Et ces mécanismes consistent d'abord à vulgariser la loi sur la protection de l'enfant, à vulgariser le code de la famille. Et à ce niveau, nous allons organiser des formations, des formateurs et des sensibilisateurs et utiliser aussi la presse pour qu'il y ait une sensibilisation sur la question de la protection de l'enfant, la prise en charge des enfants au niveau par rapport aux dispositions des codes de la famille et aussi par rapport aux dispositions de la loi portant protection de l'enfant et en même temps appeler les enfants à pouvoir participer, à pouvoir quitter les mines parce que ce n'est pas le lieu où ils doivent être. Et c'est ce que nous allons faire. Et en même temps aussi profiter pour que cette jeunesse, cette population concernée par le projet puisse connaître leurs droits et les enfants connaissent leurs droits et les obligations par rapport à la loi portant protection de l'enfant, par rapport au code de la famille.
Justement, là, ce sera pour les enfants dans les carrières de mines.
Exactement.
Alors, pour les autres, les enfants en général, où qu'ils soient, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces enfants soient informés de cet instrument juridique?
Vous savez, la LISADEL s'est battue des années. Et nous avons pris à l'époque les contacts par l'entremise de Mme Lukiana, qui était ministre des droits du genre, demander au ministre de l'EPSP de pouvoir participer à la reproduction, à l'époque c'était Marquer, à la reproduction de cette loi, et en même temps aussi permettre à ce que nous puissions travailler avec le programme scolaire pour que les droits de l'enfance fassent une préoccupation au niveau des écoles. Malheureusement, le ministre de l'EPSP n'a pas accepter pour que nous puissions travailler avec lui à cette époque-là. Je pense que si nous, on aurait travaillé à l'époque sur la demande de son collègue, aujourd'hui, beaucoup d'enfants congolais connaîtraient leurs droits. Parce qu'en fait, les droits des enfants liés au code de la protection de l'enfant, les droits des enfants liés au code de la protection, au code de la famille, tous les mécanismes mis en place, c'est pour que l'enfant grandisse dans les conditions optimales. Parce que quand l'enfant connaît ses droits, il sait les revendiquer. Ça permettra à ce que l'enfant puisse grandir de manière à ce que ses droits soient respectés, que ce soit par la communauté, que ce soit par l'État. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est pourquoi beaucoup d'enfants aujourd'hui ne connaissent pas leurs droits. Mais néanmoins, mais tout ce que nous parlons des droits des enfants à la radio, nous en parlons à la télévision, ce n'est pas suffisant. Mais ça serait très important si cette loi ferait les préoccupations des écoles et qu'au niveau des écoles, les enseignants s'en approprient et commencent en parlent dans leurs cours. Ça aurait apporté des résultats rapides et vite pour le bien des enfants et le bien de notre communauté.
La Lisadelle est reconnue par l'État congolais. Oui. Pourquoi attendre le ministère de l'EPSP ou n'importe quel autre ministère pour vos actions? Puisque vous êtes reconnu, pourquoi ne pas aller sur terrain directement?
Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile d'entrer dans les écoles, comme par le passé, où vous deviez organiser les activités dans les écoles sans passer par une autorité hiérarchique. À l'époque, c'était trop facile pour nous. Quand nous avons les activités, quand nous avions commencé autour de 94, c'était trop facile de parler, d'aller dans les écoles, de parler, de s'arranger avec le préfet, parler aux enfants. Aujourd'hui, tout est politisé. Pour y aller, on doit savoir qu'est-ce qu'il va aller parler aux enfants, et puis tout est limité, donc on est contrôlé. Ça fait que c'est difficile aujourd'hui pour y accéder, et ça demande au moins toute une gymnastique qui n'est pas aisée pour certaines personnes qui ont besoin d'aider seulement les enfants.
Mais le code de la famille, c'est un instrument juridique de l'État. Est-ce que ça va poser problème?
Oui, c'est un instrument juridique de l'État. Mais le problème, c'est que la difficulté, c'est que quand on met en place beaucoup d'obstacles pour empêcher les acteurs des droits de l'homme de parler aux enfants, parce que nous croyons que l'avenir de la République, l'avenir, notre avenir, ce sont les enfants. Il faut que nous ayons l'accès facile aux enfants pour leur parler de leurs droits, pour parler des droits de l'homme. Parce que quand l'enfant grandit dans cet environnement où il connaît ses propres droits, il espère que quand il accédera au pouvoir, il saura respecter les droits des autres. Mais quand l'enfant ne connaît pas toutes ces choses, quand il grandit, il est responsable politique, il ne connaît rien et il considère que les droits, c'est un embêtement. Donc, c'est voilà pourquoi notre souci était de donner la culture des droits aux enfants. Et cette culture, pour les donner aux enfants, il ne faut pas trop d'obstacles. Il ne faut pas trop de mécanismes, trop de demandes d'autorisation, comme c'est dans un état policier. À ce moment-là, ça décourage, ça donne pas l'envie de continuer.
Mais il y a un autre problème, on accuse les ONG d'être trop mercantiles, de penser qu'au financement et de ne pas avoir assez de vision. Parce que si on a une vision, je pense que les moyens suivront. Et on accuse justement des ONG de penser d'abord à l'argent et de ne pas commencer les actions avec leurs propres moyens. C'est ça le problème.
Et madame, je vous dis que les ONG, personne n'a l'argent. Personne n'a l'argent. Si vous voyez une organisation internationale venir au Congo, il vient ici main vite, il trouve l'argent dans les ambassades destinées aux Congolais pour travailler sur le terrain. Si vous voyez ces ONG évoluer dans leur pays, c'est leur État qui met de moyens. Parce qu'en fait, les ONG n'ont pas de champ de café, ne sont pas des commerçants. Ils doivent vivre de la contribution de l'État. Parce que ce que l'ONG fait, l'État ne sait pas le faire. L'ONG, c'est la main, c'est la prolongation de l'État. Donc l'État met à la disposition des ONG. En Europe et partout ailleurs, les ONG sont subventionnées par l'État à partir de la commune. Mais c'est ici où on considère qu'on donne de l'argent aux ONG. On se demande pourquoi on donne de l'argent aux ONG. Parce qu'en fait, le cœur du noir a des problèmes. Mais en réalité, l'argent donné aux ONG doit servir à intervenir là où l'État ne sait pas intervenir. Là où l'État n'a pas de main, c'est les ONG qui peuvent les prolonger. Et ensuite, c'est l'argent que les ONG trouvent dans ce pays-ci. C'est l'argent des contribuables étrangers qui voient que dans ce pays-là, les gens souffrent, ils envoient l'argent pour les Congolais. Mais malheureusement, les Congolais n'y accèdent pas parce qu'il n'est pas appuyé par l'État congolais. L'État ne l'appuie pas pour lui permettre de pouvoir s'exprimer, pour avoir accédé aux fonds qu'on lui envoie. Mais malheureusement, cet argent entre le mail des ONG internationales et ça rentre dans leur pays.
Mais pour vulgariser le code de la famille, vous n'avez pas besoin de l'argent de la communauté internationale.
Exact. Nous avons besoin de la contribution de l'État congolais. Parce que l'État congolais, c'est lui qui a l'obligation de vulgariser cette loi. Comme il ne sait pas le vulgariser, il doit donner de l'argent aux ONG locales qui doivent le faire, des droits de l'homme qui doivent le faire. S'il ne le fait pas, ça nous bloque. Mais l'action que nous pouvons, l'initiative que nous pouvons prendre en tant qu'ONG, en tant que hommes de bonne volonté, c'est limité. Parce que si je prends l'initiative de vulgariser cette loi parce que je n'ai pas de moyens, l'État ne m'a pas donné de moyens, je puis en parler à la radio, je puis en parler à la télévision, je peux aller dans une école, mais si j'ai de plus d'appui, je puis élargir l'action en parlant dans plusieurs radios, dans plusieurs journaux, dans les écoles, organiser des activités qui permettent à ce que beaucoup d'enfants soient saisis. Pour que ces enfants soient atteints, il faut des moyens. Le moyen ne peut pas venir de nous-mêmes, le moyen doit venir de l'État. Donc c'est l'État qui doit donner l'argent aux ONG pour le faire.
Pourquoi faut-il vulgariser ce code et que faut-il faire pour que le nouveau code de la famille soit bien vulgarisé? Je vous propose une fois de plus de suivre Madame Pélagie Makedika, présidente de l'ONG Cause Rurale.
Moi, je pense que pour que le code passe, je ne soutiens pas trop la traduction en langue locale. Parce que même si on le traduisait, les gens ne vont pas lire. La culture de la lecture n'est pas purement congolaise. Qu'on fasse des guides illustrés du code. Si on a un guide illustré, par exemple, on prend un extrait du code, je prends la question des régimes matrimoniaux, on le met dans un guide de sensibilisation, qu'on explique aux gens les conséquences. Quand on choisit tel régime, quelles en sont les conséquences? Et généralement, quand je regarde, le code s'applique quand il y a décès. Mais en dehors du décès de l'un des époux, surtout c'est le mari, c'est là qu'on sort le code. Mais au quotidien, le code n'est pas d'application.
C'est justement pourquoi nous parlons aujourd'hui de la vulgarisation du code de la famille. Donc, il est impérieux de vulgariser ce code au niveau des écoles, au niveau des églises, au niveau même des entreprises, les femmes, pour que les femmes qui travaillent puissent s'approprier de cet instrument juridique.
Voilà, donc on doit le vulgariser d'abord pour dire à l'homme que quand on parle des droits de la femme, ce n'est pas qu'on arrache un pouvoir à l'homme. Parce qu'il y a une peur dans le chef de l'homme. Ce sont les hommes qui sont en majorité magistrats, ce sont les hommes qui sont en majorité députés. On vote sous une pression, mais on n'a pas la volonté de mettre en application ce qu'on vote. Parce qu'il y a une peur d'abord qui pèse dans le chef de tout le monde. Députés, magistrats, médecins. Mais je peux vous dire, si on peut prendre des statistiques, combien d'avocats sont mariés régulièrement? Combien de magistrats eux-mêmes sont mariés légalement?
Ils seront combien pas d'accord avec vous, hein?
Combien de médecins? Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Là, nous sommes en ville. Mais si nous rentrons au village, beaucoup de mariages sont célébrés selon la coutume. Selon la coutume. Donc, c'est pour dire qu'il y a un problème. C'est vrai, on met en place un instrument. Est-ce qu'on y croit? Nous ne sommes pas sincères avec nous-mêmes, parce que les femmes ont fait la pression, il faut vulgariser, il faut modifier le code, il y a ceci, l'autorisation. Ok, les hommes disent, d'accord, on retire l'autorisation maritale. Mais les hommes attendent les femmes aussi au tournant. Là, on dit qu'il faut un consentement sur la cogestion, il faut se mettre d'accord, c'est vrai. Mais cette femme se dit aussi, ah, si je pousse trop, je risque de perdre mon mariage. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est plus valeureux? Perdre son mariage ou céder le droit et rester dans le mariage?
C'est pour ça, en amont, il faut une très très bonne éducation aussi, dès le bas âge des enfants, des filles et des garçons.
Des filles et des garçons qu'ils comprennent que c'est important, parce qu'avec le code de la famille, on protège d'abord les enfants. Vous allez voir que nombreux ne comprennent pas qu'un enfant qui est né en dehors, il faut qu'il soit reconnu par le parent, il faut qu'il soit affilié, mais s'il n'est pas affilié, ce n'est pas un enfant légitime. Il y a beaucoup de dispositions dans le code, c'est plus ou moins 330 pages. C'est pas peu. Il faut d'abord que les magistrats eux-mêmes s'en approprient, que les magistrats comprennent et maîtrisent. Parce qu'on est parfois ahuri de voir que des magistrats organisent des séances de conciliation de couple. Une femme qui vient ester en justice pour demander divorce, le magistrat peut pratiquement la décourager à continuer le procès, disant qu'elle n'accepte seulement ce que la famille de l'homme te donne. Ça, c'est pas quand même normal. Donc, et puis, les femmes se disent, bon, aller en justice, c'est déjà une cause perdue parce que mon mari a beaucoup d'argent et c'est lui qui va gagner le procès. Ça ne sert à rien, autant mieux me contenter du peu qu'on me donne. Donc, il y a quand même beaucoup de problèmes qui font que le code ne soit pas vraiment connu et que les gens se désintéressent, quoi. Même si je connaissais, est-ce que je vais appliquer? Donc, c'est un peu ça qu'on doit se demander. Mais on ne doit pas se lasser, on doit en parler. Peut-être que ceux qui sont déjà dans le lieu de mariage, ils ne sauront pas le mettre en application, mais les jeunes générations qui sont en train de venir doivent comprendre que quand on entre dans un lien de mariage, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas une grâce que j'obtiens. Donc c'est un consentement. C'est moi qui accepte d'être épouse d'eux, et l'homme aussi accepte d'être mon époux. Nous avons des obligations réciproques. Je crois qu'il faut travailler sur les jeunes générations, et c'est avec elles qu'on peut voir la situation de la femme changer.
C'est la fin de Parité et Famille. Merci à Mathieu Ilunga, François Kadima. Et ce magazine était consacré à la vulgarisation du nouveau code de la famille. Je suis Nicole Koudiangela et la mise en onde a été assurée par Alain Goy. Ce magazine a été supervisé par Thérèse Kankou. Voilà, on se retrouve donc pour le prochain numéro de Parité et Famille. Merci de votre fidélité au programme de Radio Okapi. Bye.